France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
On savait déjà qu'Omicron avait bouleversé nos vies, nos rapports aux tests. On est tous un petit peu perdus dans ces cas contacts. Si on considère que plus de 300 000 personnes par jour sont positives, sans compter ceux qui ne se testent pas parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire, évidemment tout ça, c'est très compliqué, tout est très désorganisé. Ce qui commence aussi à poser problème à la campagne vaccinale, parce que qu'est-ce qui se passe si je suis positive mais pas encore triple dosée? Est-ce que je lâche mon rendez-vous? Est-ce que j'ai intérêt à me faire tester avant de me faire vacciner, au fond? Qu'est-ce qui se passe si je suis positive Omicron après la deuxième dose? Est-ce que vraiment ça fait office de troisième dose? Est-ce qu'on parle déjà de quatrième dose pour les plus fragiles, comme le fait Israël, qui par ailleurs, et on y viendra aussi, a tout lâché, notamment ses entrées-sorties de territoire, en considérant de toute façon qu'Omicron va plus vite qu'un cheval au galop les jours de grande marée au Mont-Saint-Michel. Bref, la tâche de notre invité Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, n'était déjà pas très aisée. Elle l'est de moins en moins, ça vous fait rire. Monsieur Fischer, derrière votre masque, je vous vois. D'autant que quand on entend à nouveau parler d'immunité collective, on se dit que convaincre les non-vaccinés va devenir encore plus compliqué. Vos questions sont nombreuses, elles prouvent combien vous ne savez plus très bien sur quel pied danser, alors que vous êtes tout à fait disposé, pour la plupart d'entre vous, là en l'occurrence ce soir, à faire et à finir votre schéma vaccinal. On parlera de Novavax, si vous le souhaitez, on parlera de fiabilité des tests, on va même tenter de parler avenir. C'est vous dire jusqu'à quel point nous sommes optimistes. Avec cette question, monsieur Fischer, bonsoir.
Bonsoir.
C'est quand qu'on arrive alors?
Quand est-ce qu'on en sort? C'est la question la plus difficile à laquelle il faut répondre. Évidemment, tout le monde se la pose et personne n'a là une réponse définitive. On peut juste essayer de réfléchir avec les connaissances actuelles. Les connaissances actuelles, c'est qu'il y a une poussée, vous venez de l'évoquer, majeure de ce variant Omicron, des centaines de milliers de nouveaux cas chaque jour, même si ça... L'accélération est moindre, on va dire les choses ainsi. Il va y avoir malheureusement encore une poussée d'hospitalisation, mais globalement, cette vague, elle va retomber. Donc nos collègues modélisateurs, ils pensent qu'elle va retomber en février, que début mars, on devrait être pas trop trop mal. Et à ce moment-là, vous avez évoqué l'immunité collective tout à l'heure, on peut considérer que les Français, dans leur grande majorité, auront été vaccinés, bien vaccinés, ont reçu leur rappel. Je pense qu'on va y revenir. Et puis certains autres, et eux-mêmes aussi ceux qui sont vaccinés d'ailleurs, auront été infectés. Donc l'un dans l'autre, ça créera un niveau d'immunité non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard du SARS-CoV-2 en général, et potentiellement même à l'égard de nouveaux variants. Donc de façon ultra prudente, on peut exprimer quand même un certain degré d'optimisme pour la suite.
Allez, on a bien noté cette date de début mars, qu'on va pas couler dans le bronze, c'est promis, Alain Fischer. Et commençons comme il se doit avec une question qui vient de vous, c'est la vôtre, Jérôme. Bonsoir Jérôme.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ben écoutez, ma question, bon bien sûr ça concerne le Covid. Voilà, ça concernait surtout mon fils qui s'est fait vacciner avec sa première dose. Donc nous avons un petit peu tardé à le faire vacciner un petit peu volontairement par méfiance ou par manque d'information. Bon, le fait est que maintenant il est vacciné et j'ai appris ça aujourd'hui qu'il était cas contact et avec les symptômes qu'il a, il y a de fortes chances qu'il soit positif au Covid. Ma question c'était que doit-on faire? Premièrement, déjà dans son intérêt, sans parler, on va dire, de tout ce qui est passe et tout, doit-on attendre? Est-ce que l'on doit le faire vacciner parce que sa deuxième dose est prévue dans 3 semaines, un peu moins, 2 semaines et quelques. Donc voilà, un petit peu dans le flou, et j'attendais un petit peu quelques précisions de votre part.
On comprend votre flou, Jérôme. Merci beaucoup. Alain Fischer, qu'est-ce qu'il fait, Jérôme, avec son fils?
Alors, l'information qui me manque, c'est l'âge de son fils.
Quel âge il a, votre fils, Jérôme?
14 ans.
Un adolescent, ok. Donc, si j'ai bien compris, il a reçu une dose et maintenant il a probablement une infection par le Covid. Donc c'est une situation qui équivaut peu ou prou à la primo-vaccination. Et donc il lui faudra un rappel, mais pas tout de suite. Donc vous pouvez décaler la dose à venir de rappel, excusez-moi, de quelques temps, largement passé l'infection actuelle.
Qu'est-ce qu'on fait d'une manière générale, en fait? Parce qu'il y a plein de cas aujourd'hui comme ça. Et oui,
En gros, de façon... un tout petit peu schématique, mais ça aide à réfléchir, à simplifier les choses, c'est qu'on peut considérer qu'un épisode infectieux, même tout à fait léger, vaut une dose de vaccin. Donc si on a eu, comme c'est le cas de cet adolescent, une infection, une dose, ça fait la primo-vaccination, donc ensuite il faut un rappel. Si on a eu une dose puis une infection, après il faut un rappel. Si on a eu deux doses puis une infection, Il faut attendre. Aujourd'hui, on dit 6 mois. On discutera pour un rappel ultérieur. Mais je pense que la façon la plus simple de réfléchir, sauf les situations de malades extrêmement à risque, très âgés ou immunodéprimés, pour tous les autres, on peut considérer qu'un épisode infectieux vaut une dose et qu'on peut donc décaler, puisque évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de cas qui surviennent à un moment où on a pris un rendez-vous.
Exactement.
On peut décaler le rendez-vous.
On peut décaler le rendez-vous. Et quand on est, parce que tout le monde ne se teste pas, parce qu'il n'y a pas de raison parfois. Se tester. Est-ce que c'est dangereux parfois quand d'être piqué quand on est déjà infecté,
on est asymptomatique? Pas d'inquiétude là-dessus. Okay. Il y a de multiples cas où on a quasi simultanément ou même simultanément, j'ai des exemples dans ma famille, de survenue de détection de l'infection et en même temps on est vacciné. Non, ça ne pose pas de problème particulier.
Alors,
pas d'inquiétude.
C'est compliqué hein, les tests en ce moment, mais est-ce que dans un monde idéal, on aurait intérêt à se tester avant de se faire vacciner, en fait, ou c'est pas la peine? Ou est-ce que, oui. En termes d'immunité, en fait, est-ce qu'on sait ce qui est meilleur? Sur l'Omicron, bien entendu. Est-ce que le mieux, c'est un vaccin? Est-ce que le mieux, c'est un bon vieux Covid? Pardon de le dire comme ça. Ou est-ce que c'est les deux? Donc, est-ce qu'on aurait, dans un monde idéal, intérêt à se faire tester avant de se faire piquer, surtout sur le booster?
Alors, pas trop sur le booster. Oui, plutôt, je réponds dans ce sens-là. Ouais. Se tester et être positif, ça évite le booster, en pratique, pour l'amant. Donc, c'est plutôt avec l'idée d'épargner une injection de vaccin si elle n'est pas nécessaire. En termes d'efficacité, ça donne pas tout à fait le même type d'immunité, mais les deux types d'immunité, celle conférée par l'infection et celle conférée par le vaccin, sont bonnes. Dans les deux cas, mais autant éviter les infections inutiles. Donc, dans un monde idéal, se faire tester juste avant, oui. Alors, ça se fait, maintenant, c'est recommandé, par exemple, pour les enfants, c'était recommandé pour les adolescents. Ça, évidemment, c'est plutôt dans le cas de la primo-vaccination. Si on peut le faire, mais il faut que ça soit fait juste avant, par un test TROD, vous savez, dans les minutes qui suivent, qui précèdent, excusez-moi, la vaccination, évidemment. Pourquoi pas, puisque ça pourrait, dans certains cas, ça évitera une injection.
Vous avez parlé des immunodéprimés il y a un tout petit instant, Alain Fischer. Voici Paulette. Bonsoir, Paulette.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, professeur. Bonsoir à toute l'équipe. Et tous mes vœux et mes félicitations pour vos émissions. Donc, je suis immunodéprimée parce que je suis suivie pour un lymphome. Je n'ai plus de chimio, mais j'ai actuellement l'immunothérapie. J'ai reçu ma 3e dose le 26 octobre et je suis très prudente, bien sûr. Donc, mes lymphocytes sont extrêmement bas. 0,7, et je me demande, donc j'ai fait un test sérologique aujourd'hui, je n'ai aucun anticorps, donc est-ce que je puis ou je dois faire la 4e dose? Est-ce que ce serait pour moi la solution ou est-ce qu'il y en a une autre?
Merci beaucoup Paulette pour votre question, Monsieur Fischer. Qu'est-ce qu'on répond, Paulette?
C'est une question tout à fait importante puisqu'il y a environ en France 300 000 personnes qui, comme Paulette, je me permets de l'appeler ainsi, sont profondément immunodéprimées, sont à risque et ne répondent pas bien à la vaccination ou même peut-être pas du tout si j'entends le dernier résultat qu'elle vient de nous communiquer. Je vais lui répondre directement, mais avant je voudrais ajouter quelque chose. À juste titre, nous plaidons tous pour la vaccination et pour se protéger individuellement. Mais il faut aussi bien avoir conscience que quand nous nous vaccinons, et je pense en particulier aux plus jeunes qui pensent être moins à risque, ils sont quand même un peu à risque. Mais lorsqu'ils se vaccinent, ils protègent aussi Paulette, si je peux me permettre de prendre cette expression. On comprend bien que plus il y a de personnes qui ne transmettent pas le virus, parce que contrairement à ce qu'on dit, la vaccination réduit le risque de transmission, elle l'abolit pas complètement, mais elle le réduit. C'est aussi le principe du pass vaccinal par ailleurs. Eh bien, plus les gens de l'ensemble de la population et les plus jeunes, les moins à risque, se vaccinent, plus les personnes comme Paulette seront protégées. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est très important. La solidarité au sein d'une société, ça compte. Maintenant, la réponse directe, je pense qu'il faut que vous en discutiez avec votre médecin qui suit votre lymphome. Il y a deux options. Il faut regarder très en détail vos résultats d'examen. Soit tenter une dose supplémentaire de rappel, soit utiliser, si vraiment vous n'avez pas du tout d'anticorps, une stratégie différente qui consiste à vous injecter, faire une immunothérapie passive en vous injectant un anticorps monoclonal, en fait, une combinaison de
deux. Mais je crois que ça marchait pas pour Omicron,
ce n'est pas exact. Okay. Ça marche moins bien, mais il y a une préparation, Evusheld, pour donner son nom, qui marche quand même suffisamment bien et qui est absolument recommandée pour des personnes qui font pas d'anticorps. Donc c'est peut-être le cas de cette dame, et donc je lui suggère de se rapprocher sans attendre dès demain matin de son médecin pour en discuter.
Parce que ce qu'on dit d'Omicron, effectivement, alors vous avez apporté cette nuance, c'est pas toujours vrai, mais là effectivement ça reste un souci. Ce qu'on dit d'Omicron aussi d'ailleurs, c'est que il passe complètement au travers de la première, de la deuxième dose, pas du booster. Est-ce que vous confirmez ça?
Un tout petit peu fort. Mm-hmm. C'est sûr que les titres d'anticorps obtenus contre Omicron après la primo-vaccination sont pas extrêmement élevés. Ils sont pas nuls quand même. Enfin, ils sont 20 à 40 fois inférieurs à ce qu'ils étaient contre Delta, par exemple. Néanmoins, il y a une protection contre l'infection. Ça a été montré en Afrique du Sud avec des résultats qui sont pas mauvais du tout. Et puis alors, après le rappel, d'où la justification massive de la nécessité du rappel pour tous, là, on a une bonne élévation des anticorps et on a un niveau de protection contre l'infection, contre l'hospitalisation, dont on sait maintenant qu'elle dure au moins 3 mois, avec des données britanniques qui sont tombées aujourd'hui, qui est très bonne, 90%. Donc il faut ne pas être excessivement inquiet, même je dirais ne pas être particulièrement inquiet. Si on est complètement vacciné les deux premières doses et on a reçu le rappel, eh bien on est très bien protégé contre Omicron et ainsi que contre Delta, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il existe encore.
Et qu'il est
un peu plus sévère que Omicron.
On est toujours en queue de Delta, en effet. Pas encore tout à fait en pic Omicron et toujours
Exactement.
En queue de Delta. C'est un peu ce qui fait peut-être notre spécificité d'ailleurs. Valérie est avec nous. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir. Merci de prendre l'appel. Merci à vous et merci d'apporter un peu de clarté dans cette situation un peu confuse.
Allez-y.
Alors, ma question à moi, à part avoir raté quelque chose dernièrement, il me semble qu'on n'a toujours pas prévu la troisième dose pour les adolescents, les 12-17 ans. Est-ce que c'est un trou dans la raquette ou est-ce qu'on attend finalement qu'Omicron fasse son usage sur cette population-là ? Moi, j'ai une fille lycéenne qui, en utilisant un peu d'humour pour cacher son inquiétude, me dit « Maman, au lycée, c'est Koh-Lanta, à la fin, il en restera qu'un.
» Et merci Valérie, on embrasse votre fille aussi.
Dédramatiser un tout petit peu.
Mais du coup, compte tenu de ce que vous venez de dire,
Je vais répondre, bien sûr. Néanmoins, d'abord, rappeler quand même que le risque pour les adolescents, s'il n'est pas nul, de forme sévère, il est heureusement très faible. Et puis, si on a déjà reçu les deux premiers vaccins, on est quand même partiellement protégé, même si c'est pas optimal, je viens de l'indiquer. Alors, concernant les adolescents, notre conseil, le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a pris position en faveur du rappel, de le mettre en place, non seulement, comme c'est déjà le cas pour les adolescents fragiles, mais pour tous les adolescents. La Haute Autorité de Santé, de son côté, attend des données complémentaires, notamment en termes de sécurité, mais à vrai dire, on a des données maintenant venant des États-Unis qui sont tout à fait rassurantes et qu'il n'y a pas d'effet indésirable lié au rappel supérieur, pas du tout, comparé à la primo-vaccination. Donc je pense qu'on va y aller, il faut attendre encore un tout petit peu.
Donc ce sera peut-être officiel à un moment. Je me demandais si le rythme de la vaccination avait été bouleversé justement par Omicron, précisément parce que comme on se retrouve positif, donc on décale la deuxième dose ou parfois la troisième, etc. Est-ce que ça se voit en fait dans tous ces bumpers-là, dans les chiffres, y compris d'ailleurs sur les gens qui se vaccinent pour la première fois, qui ont enfin réussi à être convaincus, qui décident d'y aller? Est-ce qu'on sent avec ce variant-là que c'est plus compliqué?
C'est difficile de lire parce que par définition, les chiffres quotidiens de vaccination sont la somme de toutes ces situations différentes. On observe, ce qui est quand même une bonne nouvelle, une petite augmentation, même si elle est encore insuffisante, de la primo-vaccination. Il y a eu un chiffre, un jour, la semaine dernière.
Il y a eu un 66 000.
66 000. Ouais. Bon, on ne peut pas se contenter des chiffres d'une seule journée, mais enfin, il y a une tendance, pas excessivement rapide, mais à une augmentation des primo-vaccinations. Évidemment, c'est bien, et cet effort doit être poursuivi, puisqu'il s'agit de la population la plus à risque. Ce sont les personnes non vaccinées, il faut le rappeler, qui sont les personnes les plus hospitalisées, les plus à risque. Donc cet effort, notamment, aller vers les personnes âgées, les fragiles, les personnes précaires, enfin, je le répète, mais c'est absolument essentiel. Maintenant, ensuite, les variations, l'un dans l'autre, ça se neutralise. Il y a de ci, de là, bien sûr, des vaccinations qui sont repoussées du fait d'une infection. Mais on ne le voit pas à l'échelle des statistiques globales du pays.
Est-ce que vous êtes à bout d'arguments, vous aussi, Monsieur Fischer, sur les non-vaccinés, sincèrement? Est-ce que vous cherchez aussi une autre porte d'entrée, en fait, pour vous adresser à des
gens? Tous les arguments sont sur la table, mais je pense, évidemment, et on ne va pas inventer aujourd'hui un argument qui ne soit pas connu déjà depuis des semaines et des semaines. Simplement, évidemment, ce n'est pas le cas de ce que je fais aujourd'hui, mais il s'avère quand même que lorsqu'on est en situation d'entretien individuel où on peut prendre le temps d'entendre une personne non vaccinée, qui n'a pas confiance, qui a peur, etc. Et qu'on peut prendre le temps de lui expliquer, de reprendre tous les arguments sur l'efficacité, sur la tolérance, sur la nécessité de cette vaccination, sur le fait que non seulement on se protège d'une forme grave, mais on contribue à diminuer la circulation du virus et donc à protéger, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les plus fragiles d'entre nous. Lorsqu'on peut être en situation de dialogue singulier, en considérant les questions et les inquiétudes de cette personne qui doute, on en convainc encore. C'est sûr qu'en termes, je n'ai pas un nouvel argument à apporter, si ce n'est, je répète, la pertinence absolue de cette vaccination qui, de loin, reste notre meilleure arme et notre meilleure arme contre Omicron, même si ce virus-là est un peu moins agressif que les précédents, que l'efficacité, elle n'est pas parfaite, on en est d'accord, mais elle est excellente. Et il y a également un effet, contrairement malheureusement à ce qu'on entend trop souvent, sur la transmission, et la sécurité est excellente. Et ça, on peut rappeler quand même aussi qu'aujourd'hui, il y a eu 9 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde. Si on regarde les vaccins ARN qui nous concernent le plus, c'est environ 2 milliards de doses en un an. On a accumulé une expérience mondiale sur ces vaccins uniques, qui permet vraiment d'être extrêmement solide sur les notions de sécurité à court terme et à moyen long terme, sachant que moyen long terme, on n'attend pas particulièrement de risques. Voilà, donc il faut répéter, expliquer, dialoguer.
Est-ce que c'est Novavax, votre porte de sortie, Monsieur Fischer? Parce qu'on sait bien qu'il arrive à la fin du mois de janvier, autant que je sache, ou en tout cas au février.
Oui, il y aura un peu de Novavax disponible, donc il faut rappeler que c'est un vaccin.
Qui n'est pas un vaccin ARN.
C'est pas un vaccin ARN, c'est un vaccin fondé sur une protéine avec un adjuvant. C'est un vaccin qui est pas mal. Il a franchi les barrières exigeantes de l'Agence européenne du médicament en termes d'efficacité et de sécurité. Il est quand même un peu moins bon que les vaccins ARN en termes d'efficacité, il faut le savoir. Maintenant, si une personne refuse absolument un vaccin ARN, ce qui est dommage, mais est prête à se laisser vacciner par Novavax, on y va, bien sûr, il faut être pragmatique.
Bonsoir Marianne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Marianne.
Merci. Moi, ma question porte sur les plus de 65 ans qui ont, par définition, reçu leur booster, enfin leur rappel en septembre ou octobre. Si on calcule qu'au bout de 3 mois, l'immunité commence à baisser, elle commencerait à baisser maintenant. Donc moi, je suis assez inquiète pour ma maman qui a plus de 70 ans. Et je voudrais savoir, j'ai vu que... moi, ce que j'avais lu, apparemment, ça a changé. Là, c'est une étude britannique qui disait qu'après 10 semaines, la troisième dose Pfizer, l'immunité baissait à 45% pour les formes symptomatiques. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'une quatrième dose est prévue rapidement? Là, je sais qu'en Israël, c'est proposé. Bref, où en est-on pour les personnes de plus de 65 ans?
Merci.
Et les personnes vulnérables.
Merci Marianne. Elle a raison, Marianne, sur la date des personnes les plus vulnérables et plus vieilles qui ont été vaccinées maintenant depuis en troisième dose.
Rappels ont commencé début septembre. Donc cette question est pertinente. Alors, il faut bien analyser les choses. Je le rappelais tout à l'heure, à côté des données que madame a rappelées sur la protection contre l'infection, toutes sortes d'infections asymptomatiques, bénignes ou éventuellement plus graves, l'efficacité diminue avec le vaccin Pfizer à 40-45% après 10 semaines. Pour le Moderna, ça persiste à un niveau un peu plus élevé. Mais il y a une information nouvelle donc qui vient d'arriver, qu'il faut confirmer, donc il faut se donner le temps de bien analyser les choses. C'est le fait qu'à 3 mois après le rappel, on tient avec un niveau de protection contre l'hospitalisation, donc on est sur les formes plus graves, y compris pour les personnes âgées, de l'ordre de 90%. Donc ça, c'est un élément qui n'incite pas, qui ne pousse pas dans l'immédiat à proposer cette quatrième dose, mais évidemment, cela est regardé de très très près. C'est vrai que les Israéliens ont commencé, sont les seuls, absolument les seuls. Tout le monde regarde, tout le monde étudie cela, attend les données du type de celle dont je viens de parler, pour se faire une opinion plus complète. Je dirais que dans l'extrême immédiat, le plus important, c'est qu'il y a encore 25% de personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas reçu leur rappel. Et ça, on sait que ça change la donne en termes de protection contre Omicron de façon déterminante. Donc la priorité des priorités pour janvier, c'est que ces 25% de personnes âgées de plus de 65 ans reçoivent le rappel à côté des primo-vaccinations. Et on verra après pour cette, entre guillemets, quatrième dose, même pour les plus fragiles, en dehors des très profondément immunodéprimés où il faut le faire, ça c'est clair.
Xavier est à Lille. Bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Xavier.
Bonsoir. Ben voilà, en fait, moi je m'interroge un petit peu. Voilà, je suis vacciné, j'ai fait mes trois doses, et je me suis vacciné non pas par crainte de finir à l'hôpital, mais plus pour retrouver ma vie normale. Mm-hmm. J'ai une fille de 7 ans, et hier soir, j'ai reçu un mail voilà, qui m'indiquait qu'il y avait un cas contact dans sa classe. Résultat, ce matin, la course, la croix et la bannière pour la faire tester. Elle a eu mal. Donc du coup pour la suite des tests à mon avis ça va pas être évident.
Oui.
Et moi je m'interroge sur l'intérêt, surtout face à une vague Omicron qui apparemment est beaucoup moins dangereuse. Donc s'il vous plaît, est-ce que Monsieur Fischer pourrait quand même communiquer avec ses collègues au niveau du gouvernement et peut-être alléger considérablement la vie des citoyens. Et ok, le vaccin c'est important, mais qu'on commence à, s'il vous plaît, à arrêter de nous embêter, quoi, pour rester poli.
Merci beaucoup pour cette question, Xavier. Ce qui tourne beaucoup et qui va dans le sens de ce que dit Xavier Alain Fischer, c'est on teste trop, ça finit par n'avoir plus de sens, et on voit bien ce qui a été désorganisé. On voit bien d'ailleurs que les écoles sont en grève jeudi. Est-ce que ça a encore un sens? On citait Israël tout à l'heure, ils ont ouvert les vannes, en fait, en disant c'est bon, Omicron va trop vite de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous en dites, vous?
Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure attitude aujourd'hui. Bien évidemment, c'est compliqué à partir du moment où il y a un très grand nombre de cas. C'est compliqué de tester l'organisation générale de l'ensemble du système, que ce soit des tests, et même, on en a parlé tout à l'heure, de la vaccination, et puis des soins en général, et puis de la vie sociale, est perturbée. Néanmoins, c'est moins compliqué que d'être malade, ou pour, de façon à l'échelon moins sévère bien sûr, mais de fermer des classes. Mmh. Si on peut éviter de fermer des classes, j'ai pas vu les tout derniers chiffres, mais je sais qu'en fin de semaine dernière, il y avait 9 000, 10 000 classes fermées. Mmh. C'est plus perturbateur que les tests.
C'est vrai, mais c'est au-delà de contraignant. Là, on est arrivé à un stade où c'est vraiment au-delà de contraignant, parce que les labos ne suivent pas, et on peut comprendre, par ailleurs, les pauvres.
Ils prennent un peu de retard, mais ils arrivent quand même à donner les résultats. Non, mais que ça soit compliqué et que ça empoisonne la vie de chacun, j'en suis évidemment conscient. Et je pense que tout le monde en est conscient, ceux qui sont en charge directement de cela en sont conscients aussi. Mais je répète que malgré tous les inconvénients qu'on vient d'évoquer, c'est moins embêtant que de fermer une classe. Mmh. À chaque fois qu'on évite de fermer une classe, c'est bien pour les enfants. Et donc si ça permet, et je sais que ça permet, d'éviter des fermetures de classe, c'est une bonne chose. Donc malgré tout, malgré toutes les limites, malgré la complexité, c'est une bonne chose de poursuivre une politique de dépistage lorsque c'est nécessaire.
Et puisqu'on est dans le dépistage et aussi les gestes barrières, je vous sors un petit peu de votre compétence d'immunologie. Et encore que, d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites du masque FFP2, vous, dont on nous a dit aujourd'hui que... finalement, les autorités sanitaires étaient défavorables à une généralisation des FFP2.
Oui,
je précise qu'on est tous les deux en masque chirurgical. Là,
absolument. c'est l'avis du Haut Conseil de Santé Publique. Je pense que cet avis est raisonnable. Le masque FFP2, il est vraiment important dans les situations à très haut risque de contamination. Donc si on a deux personnes à proximité, dont une est à risque d'être infectées, restent ensemble pour un temps long, on pourrait imaginer que le FFP2 soit utile, mais pour d'autres situations, franchement, je ne crois pas que ça soit nécessaire, ce d'autant que ce sont des masques qui se supportent moins facilement, donc il y a plus de risques de mauvaise utilisation du masque. Mal utiliser le FFP2, c'est beaucoup moins bien que bien utiliser le masque chirurgical.
Mais vous savez ce que ça nous rappelle tous, la mauvaise utilisation des masques chirurgicaux dont on nous parlait au tout début de la pandémie.
Ça existe aussi, et on le voit tous les jours dans la rue.
C'est vrai, mais enfin bon, je pense
ça reste vrai, il faut bien poser son masque, il ne faut pas le mettre juste sur le nez ou la bouche, il ne faut pas le triturer toutes les 3 minutes, il faut en changer régulièrement, ça reste absolument vrai, mais c'est plus compliqué à l'FFP2, c'est pour ça que je l'évoquais.
Allez, Claude est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais savoir, moi j'ai une petite fille qui a tout juste 10 ans à Noël, qui a été testée parce que avec sa famille, elle devait partir en Italie. Elle a eu un test PCR le 26 décembre, je crois. Ce test PCR était positif. Ses parents avaient toussé, avaient été un peu enrhumés avant. Ils avaient été testés, ils étaient négatifs. Et toute la famille, y compris son frère, est vaccinée. Les parents avaient les 3 injections et son frère à ces 2 injections qui datent de l'automne. Donc Manon, elle, avait un test PCR positif, elle était complètement asymptomatique. Est-ce que, quelle serait l'attitude logique de considérer que ce test PCR positif est la certitude d'une infection à Covid et que donc l'injection de vaccin qu'on va lui faire par la suite sera une deuxième injection, ou est-ce qu'il faut quand même, dans la mesure où elle était complètement asymptomatique, lui faire un TROD pour s'assurer qu'elle a bien fait, la maladie.
Merci beaucoup pour votre question, Claude. C'est vrai que c'est tellement contre-intuitif, cette idée que on est asymptomatique. Mais comment on rassure Claude ?
Eh bien, les formes asymptomatiques, particulièrement avec le variant Omicron, sont très fréquentes. Donc, et le test PCR est très fiable. Donc, je pense qu'il faut prendre ces résultats comme justes. Et donc, effectivement, considérer que cela vaut une dose de vaccin pour cet enfant.
Michel, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Michel.
Voilà, j'ai 73 ans, je n'ai pas de facteur de comorbidité. J'ai été vaccinée en avril et en mai avec Pfizer. Et au moment de faire le rappel à fin novembre, je me suis fait faire une prise de sang donc pour savoir donc mon degré d'humidité. Et j'étais supérieure à 2500. Et j'ai refait une prise de sang il y a donc 3 jours pour voir si ça avait baissé pour faire un rappel. Et je suis toujours à supérieur à 2500. Donc dans ces conditions-là, est-ce qu'il est utile, en quelque raison que ce soit, que je me refasse une dose puisque je suis toujours à un très haut niveau d'immunité.
Merci beaucoup, Michel. Vous êtes venu plusieurs fois, Alain Fischer, ici au téléphone sonner le matin. Je pense qu'à chaque fois, vous avez répondu à cette question.
Oui, c'est bien de continuer à le faire.
Ouais.
À titre individuel, le dosage des anticorps, le titre d'anticorps, le taux que vous évoquez, qui a l'air plutôt élevé, encore, il faut regarder quel type d'unité, mais bon. Malheureusement, à soi seul, n'est pas une garantie de protection. N'est pas une garantie de protection parce qu'il y a anticorps et anticorps. Il y a des anticorps dits neutralisants qui sont plus efficaces que les moins neutralisants, et ça, on ne le sait pas dans un dosage de ce type. Parce qu'on est protégé aussi par un autre type d'immunité qui s'appelle l'immunité cellulaire, qui n'est pas mesurée dans ces tests. Donc finalement, ce test, pour quelqu'un qui n'est pas immunodéprimé et qui a un problème de production d'anticorps dont on a parlé tout à l'heure, donc pour l'immense majorité de la population, y compris les gens de 70-80 ans, ce test d'anticorps, il ne sert pas à grand-chose.
Ça veut dire quoi, 2500 d'ailleurs ? On parle de 2500 quoi ?
Alors, ça dépend. Il y a plusieurs types d'unités. En principe, l'unité, c'est BAU par millilitre, mais je ne sais pas strictement si c'est le cas aujourd'hui. Bon, ça donne un certain niveau de dilution, de mesure des anticorps. Ça dépend de la technique qui est utilisée. C'est vrai que ça témoigne du fait que les anticorps sont présents contre la spike, parce que j'imagine que ce sont les anticorps anti-spike qui ont été mesurés. Mais on ne peut pas le prendre comme argent comptant pour une certitude de protection. Donc franchement, c'est mieux de faire le rappel. Ça va vous apporter une immunité encore plus élevée et qui va durer probablement assez longtemps parce que vous allez monter très 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 haut globalement dans votre protection. Et c'est vraiment la meilleure des garanties que l'on puisse avoir.
Cette question de Christelle sur franceinter.fr qui dit actuellement on vaccine et on booste avec un vaccin qui n'est pas ciblé, dit-elle, pour Omicron. Est-ce qu'on connaît la date de livraison des vaccins qui seront réellement ciblés ? Est-ce qu'il ne serait pas opportun du coup de revoir la troisième dose de vaccin plutôt qu'un vaccin non ciblé contre ce variant ?
Alors, il y a effectivement des vaccins ciblant la spike, la spicule d'Omicron en préparation dont on escompte qu'on puisse disposer au printemps, mais il faut voir avec quel rythme ce vaccin est produit. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? La réponse est non. Parce que le vaccin actuel, même s'il ne cible pas Omicron, il est néanmoins suffisamment efficace. Je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Il confère une protection contre l'infection grave qui est au-delà de 90% si on a reçu le rappel. Et c'est une bonne protection. Et il vaut mieux cette très bonne protection maintenant que d'attendre 3 mois, 4 mois, je ne sais pas, et s'exposer pendant tout ce temps-là. Donc c'est la stratégie, elle est très très simple. C'est de bénéficier des vaccins dont nous disposons aujourd'hui, qui, je le répète, sans être parfaits, sont quand même très bons et sûrs.
Monsieur Fischer, je ne sais pas si vous allez pouvoir aider Gilles, sur franceinter.fr qui dit « Bonsoir, j'ai un parcours vaccinal contre le Covid-19 qui est complet. Maladie Covid en mars 2021, vaccin Pfizer en juillet, rappel Moderna en décembre dernier. Mais mon pass sanitaire sur l'application indique validité maximum 20 juillet 2022. » Pourquoi cette différence de traitement par rapport aux personnes vaccinées sur 3 doses, nous demande Gilles ?
Il n'y a pas de raison. Il y a un petit gag, je pense.
Il y a un vaccin, il y a un rappel.
Oui,
donc effectivement,
bon.
On a les trois.
C'est bon. Bon, de toute façon, la personne n'a pas à s'inquiéter particulièrement parce que d'ici juillet 2022, la situation sera revue d'une façon ou d'une autre.
Et
je l'espère
Mais espérons-le carrément, même.
Voilà. Mais bon, bref. Mais néanmoins, c'est une petite anomalie qui mérite un contact avec le centre de vaccination ou la personne qui l'a vaccinée.
Valentine, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Valentine.
Oui, j'ai eu. Donc j'ai 30 ans, j'ai des amis dans mon entourage qui ont fait le vaccin, le booster, etc. et qui ont eu des effets sur leurs règles. Donc ils sont arrivés beaucoup plus tôt, qui leur ont fait beaucoup plus mal. J'ai essayé de me renseigner à ce sujet et j'ai eu très peu d'éléments concernant les règles et la vaccination. Et très récemment, il y a une étude qui est parue des États-Unis qui a conclu que la vaccination avait un effet de moins d'un jour sur les règles. Mmh. Comme c'est un sujet qui m'intéresse, je suis allée regarder. Et en fait, il y a 10% de ces femmes qui ont une différence de règles de 8 jours ou plus. Mmh. Mais comme il y en a qui sont en négatif et d'autres qui sont en positif, ils ont fait une moyenne. Moi, je voulais savoir un petit peu quel était votre retour sur les règles et notamment sur la fertilité par rapport à ce vaccin.
Merci beaucoup, Valentine, pour cette question. Alain Fischer, beaucoup de questions et depuis le début d'ailleurs sur la perturbation des cycles, en effet.
Madame a ajouté fertilité, donc
c'est
complètement différent. Il faut bien. Je réponds d'abord sur la fertilité.
Allez-y.
Il n'y a absolument aucune évidence, et même quand je dis il n'y a pas d'évidence, c'est qu'il n'y en a pas, et que le contraire est prouvé à travers les nombreuses grossesses à succès de femmes qui ont été vaccinées juste avant d'être enceintes ou au début d'une grossesse. Il n'y a absolument, j'insiste, aucun effet de la vaccination sur la fécondité. Mmh. Zéro.
D'accord.
Et c'est clairement établi, encore une fois, on a une expérience massive à l'échelle mondiale. Sur les règles, alors, il y a un petit débat parce que les données sont un peu contradictoires, mais effectivement, cela est rapporté par un certain nombre de femmes, et cela a déjà été observé avec d'autres vaccins, incidemment, c'est qu'il puisse y avoir un dérèglement d'un cycle. Et donc c'est un phénomène transitoire, qui n'est pas grave, qui n'entraîne pas de dérèglement hormonaux persistant, et donc il peut y avoir un dérèglement de plusieurs jours, comme Madame l'a signalé, mais encore une fois, c'est un cycle, et c'est limité, pas toutes les femmes par ailleurs, et donc il ne faut pas s'en inquiéter plus que cela. Et c'est tout, encore une fois, rien sur la fécondité, rien par ailleurs pendant la grossesse, j'en profite pour rappeler ça, parce que malheureusement, encore ces jours-ci, on entend parler de drames de femmes enceintes non vaccinées, qui ont soit des problèmes elles-mêmes en fin de grossesse, soit qui donnent naissance à des bébés avec des problèmes de prématurité, de retard de croissance. Il y a beaucoup de bébés hospitalisés aujourd'hui parce que leur mère n'était pas vaccinée et qui sont en situation précaire. Donc la vaccination des femmes enceintes est absolument indispensable et elle est sûre. Encore une fois, les données sont tellement importantes qu'elles ont pu être recueillies depuis un an. Il n'y a pas d'effet sur la grossesse. Les bébés naissent normalement, il n'y a pas d'excès de prématurité, il n'y a pas de fausse couche. Alors que le Covid, lui, donne de la prématurité, de la fausse couche et des pneumonies graves chez les mères. Donc il faut absolument se vacciner si on est enceinte, si on ne l'a pas été, ou avoir son rappel, et ceci sans attendre dès le début de la grossesse.
Et sans crainte, donc
et bien sûr, sans
vous entendant. Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Catherine.
Eh bien, on a entendu depuis le début de cette maladie, de ce virus, qu'une couverture vaccinale à 90% était le but à atteindre. Et ma question, c'était, est-ce qu'on y est? Et dans ce cas-là, si on y est, est-ce qu'il y a bien des raisons de forcer les personnes, ou du moins de mettre la pression sur les personnes qui n'ont pas fait le choix de la vaccination?
Merci, voilà. Catherine. Est-ce que ce 90% dont on a parlé effectivement au début, ça c'est une réalité, Alain Fischer,
70-80%.
Voilà, existe aussi en Omicron time, si je puis dire.
En Omicron time, oui, c'est la notion de l'immunité collective. Et même avant, au début de l'épidémie, avec le virus initial, on pouvait même espérer avoir une immunité collective avec 70-80%.
On avait dit ça au début, ouais.
Et on est monté à 90-95%. Mmh. Malheureusement, nous faisons face à des variants de plus en plus transmissibles, et c'est clairement le cas d'Omicron, qui résiste un peu à la réponse immunitaire, on l'a vu. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas atteindre une immunité collective sans qu'il y ait un taux de vaccination ou de protection éventuellement pour certains par l'infection très élevé. Donc si aujourd'hui on renonçait à vacciner les 8-9% de Français âgés de plus de 12 ans, mais aussi les enfants. Il ne faut pas oublier les enfants de 5 à 11 ans, ils représentent environ 5 millions de personnes dont la grande majorité aujourd'hui ne sont pas vaccinées. Si on laissait courir la maladie, eh bien, on aura la poursuite de ce que l'on observe tous les jours dans les services hospitaliers, dans les services de soins intensifs, et les collègues réanimateurs le rappellent malheureusement, parce qu'ils l'observent tous les jours, des personnes hospitalisées et qui décèdent parce qu'elles n'étaient pas vaccinées. Il est absolument essentiel de poursuivre la vaccination et d'essayer de toucher, de convaincre, de faire en sorte que ces personnes non vaccinées le veuillent bien.
Mais est-ce que vous dites, vous, comme l'a dit d'ailleurs Olivier Véran, de toute façon tout le monde l'aura, un moment ou un autre. Alors effectivement, dans
non,
des formes
monde,
qui
non.
peuvent être... bénigne quand on est triple vacciné, mais...
Pas, pas, pas forcément tout le monde, mais à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'in fine, en combinant la vaccination complète avec le rappel, et effectivement, puisque c'est fréquent, un certain nombre d'infections naturelles, la combinaison des deux va faire en sorte qu'on ait un niveau d'immunité collective assez élevé. Mais si renoncer, encore une fois, à la vaccination, laisser faire l'infection en disant l'infection va faire office de protection...
Oui, israélienne, donc, pour
c'est
l'instant.
Vrai, mais le prix à payer sera cher.
Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous, Marc. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci,
on vous écoute.
Merci de prendre mon appel, je vais être rapide. Donc, du coup, j'enchaîne. On souhaite l'immunité maximum dans les pays où on peut se faire vacciner. Qu'en est-il des pays où ce n'est pas le cas, par exemple l'Afrique en particulier, où le taux de vaccination est très faible? Donc, est-ce que l'on risque pas d'avoir de nouveaux variants qui vont se créer là-bas parce que le virus continue à circuler fortement? Peut-être que Omicron est moins dangereux que les précédents variants, mais on n'a aucune garantie sur les prochains. Et question subsidiaire par rapport à l'aide qu'on apporte actuellement, qu'en est-il de AstraZeneca? J'ai cru comprendre que certains pays africains étaient l'accueillaient avec en étant plus ou moins heureux du fait qu'on leur donne un vaccin dont on ne veut pas nous-mêmes.
Mmh. Merci beaucoup Marc pour votre question. Question double. D'abord, effectivement, est-ce qu'il y a un risque dans tous ces pays qui sont effectivement très mal vaccinés, et en partie parce que nous conservons nos doses, est-ce qu'il y a un risque de créer un autre variant? Parce qu'on entend aussi Omicron est peut-être le dernier variant. Qu'est-ce qu'on en sait?
Non, que ce soit le dernier variant, c'est très improbable.
Okay.
Qu'il y ait de nouveaux variants, c'est extrêmement probable, mais ce qui est une hypothèse plausible, c'est que le niveau d'immunité, on venait d'en parler, qui sera acquis par l'infection et la vaccination, nous protège mieux contre ces nouveaux variants et les rende moins dangereux.
Ouais, ouais.
Ça, c'est le point. Monsieur a raison. Évidemment, il faut arriver à vacciner l'ensemble de la planète. On veut quand même rappeler que 50% des habitants de cette planète aujourd'hui ont reçu au moins une vaccination, ce qui n'est pas si mal. Le problème, c'est que c'est extraordinairement hétérogène. L'Afrique et certains pays d'Asie du Sud-Est sont mal vaccinés. Et donc, tous les efforts doivent être faits en termes de production de vaccins, de livraison de vaccins, de transfert de technologies, mais aussi, il faut des chaînes du froid. C'est compliqué pour les vaccins ARN. D'où l'intérêt quand même d'AstraZeneca, qui n'est pas un si mauvais vaccin que cela, et qui a été assez largement distribué de par le monde, et tant mieux, il ne faut pas du tout galvauder ces vaccins qui sont plus faciles à transporter, à conserver. Donc c'est une condition importante aussi pour la vaccination dans les pays pauvres.
Et donc peut-être aussi les suivants, les vaccins suivants
Oui, peut-être aussi,
venir.
Tout sera intéressant et viendront compléter le plus vite possible cette vaccination mondiale. Il faut des efforts industriels, technologiques, politiques aussi, en termes de droits sur les vaccins. Et puis former les gens, avoir des vaccinateurs, des chaînes du froid, tout cela.
Merci beaucoup Alain Fischer, merci vraiment de votre présence chez nous, merci à tous pour vos très nombreuses questions.